Bonjour à tous, les 12 et 19 juin 2022, les électeurs sont appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives. C'est tout simplement pour permettre aux Français d'exercer leur devoir civique, une occasion pour eux de désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale, d'élire donc leurs députés. Et vous le savez, dans la troisième circonscription de la Sarthe, 9 candidatures ont été enregistrées. Sur votre radio, nous donnons la parole aux différents candidats en lice. Et aujourd'hui, nous en accueillons deux nouveaux candidats. Et en l'occurrence, il s'agit d'une candidate, Bernadette Coudray. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur Radio Prévert à l'occasion de cette émission spéciale.
Merci de nous recevoir.
C'est avec grand plaisir. Et vous êtes accompagnée par Emmanuel Poirier, le régional de l'étape, le local de l'étape, si j'ose dire. Bonjour.
Merci Jocelyn. Oui, bonjour à tous.
Et on est au studio de La Flèche. C'est la raison pour laquelle je le désigne comme local de l'étape, puisqu'il est fléchois. Et suppléant donc de Bernadette Coudray, c'est bien ça?
Exactement, d'origine fléchoise, natif de La Flèche, avec des parents et grands-parents qui étaient fléchois, et commerçants également.
Alors vous êtes candidate?
Oui.
Bernadette Coudray, oui. Sous la bannière
de Reconquête.
Reconquête,
et pour puis... Éric Zemmour.
Tout à fait, et puis vous allez expliquer tout au long de cette émission quels sont selon vous les enjeux importants pour... les habitants de la 3e circonscription de la Sarthe.
Oui.
Et nous aurons également à leur présenter les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'être candidate et puis M. Poirier d'être suppléant de Bernadette Coudray. Mais avant, ce serait intéressant que les auditeurs puissent bien vous connaître. Est-ce que vous pourriez vous présenter?
Alors, je suis Bernadette Coudray, j'ai 68 ans, je suis retraitée. Et j'habite sur la 3e circonscription à Cogné, dans le canton de Saint-Calais. Et donc je suis née dans le 93 à Montreuil. Et maintenant j'habite dans la 3e circonscription et je viens de la société civile. Et j'ai toujours en moi cette nécessité de m'occuper des autres, car avant d'être retraitée, j'ai été infirmière. Et ensuite, professeur des écoles, donc infirmière pendant une dizaine d'années, et puis professeur des écoles à Cayenne, en Outre-mer, dans notre belle Guyane française. Et ensuite, j'ai été mutée dans la Sarthe. Tout d'abord, j'ai passé mon bac en travaillant, j'ai passé mon bac en candidat libre, parce que j'étais obligée de travailler. Mes parents, c'était des petits commerçants dans les années 50, qui ont fait faillite quand les premières grandes surfaces sont arrivées dans le paysage. Et à l'époque, il y avait du travail, il suffisait de traverser la rue. Et donc, il y avait quand même du travail. Et j'ai passé mon bac, donc tout en travaillant. Je me suis inscrite dans des cours par correspondance jusqu'au bac que j'ai passé en 1973. Et donc, après le bac, j'ai passé le concours d'école d'infirmière à Millau, dans l'Aveyron, et j'ai exercé ce métier d'infirmière pendant une dizaine d'années, et puis par concours, je suis devenue professeure des écoles. J'ai été nommée à Cayenne, en Guyane, et ensuite j'ai été mutée en Sarthe, comme professeure des écoles, dans la 3e circonscription, un poste de brigade, des missions pour assurer des remplacements, des instituteurs en congé, et des décharges directeurs des écoles primaires et maternelles de Saint-Calais jusqu'à Château-du-Loir. Donc je connais bien toutes les écoles de la circonscription.
Voilà donc, pour, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter à cette présentation détaillée.
Voilà, donc ensuite j'ai toujours voulu donc m'occuper des autres. Et puis j'ai fait le triste constat que la Sarthe n'a pas la place qu'elle mérite, particulièrement la 3e circonscription, très rurale, où je vis et à laquelle je suis très attachée et qui est abandonnée et plus que sinistrée. Et voilà pourquoi j'ai décidé de me présenter aux élections législatives avec le parti Reconquête, voilà, accompagné par mon suppléant Emmanuel Poirier, parce que je trouvais qu'il est temps que la politique s'élève au-dessus des mesurettes pour préparer notre avenir et puis celui de nos enfants.
On va donner la parole à votre suppléant, Emmanuel Poirier, pour qu'il se présente aux auditeurs.
Oui, donc Emmanuel Poirier, j'ai 55 ans, j'ai un grand garçon de 22 ans. Je suis né à Flèche, j'ai grandi à Flèche, je suis resté à Flèche jusqu'à environ mes 20 ans, puis ensuite je suis allé vivre en Vendée pendant 5 ans, et puis j'ai passé ensuite 25 ans de ma vie en région parisienne dans l'Essonne, et puis ça fait maintenant 4 ans que je suis revenu me domicilier sur la Flèche, à Clermont-Créan précisément. Voilà.
Et pour quelles raisons vous avez accepté d'être suppléant de Bernadette Coudrin?
Or, je suis suppléant parce que Bernadette me l'a demandé. Or, nous ne nous connaissions pas, mais nous avions des intérêts communs, c'est-à-dire faire émerger une candidature aux conquêtes pour le sud Sarthe. Et donc, Bernadette vivant à Saint-Calais, il fallait donc son pendant de l'autre côté de la circonscription. Et donc, j'ai répondu favorablement à la demande qui m'a été proposée.
Est-ce une première pour vous en termes...
En ce qui me concerne, j'ai été me présenter sur la liste de Antoine Joly en 95, donc candidat RPR de l'époque. Ça, c'était voilà un choix donc en 95. Puis ensuite, les années qui ont suivi, lorsque j'étais domicilié en région parisienne, je faisais partie du MPF, du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, et j'étais le secrétaire général de la Fédération de l'Essonne. Et puis bon, depuis 2007, à vrai dire, j'étais orphelin politiquement et un peu, je faisais partie des gens qui faisaient partie de la droite hors des murs. Et donc, courant 2021 et l'appel d'Éric Zemmour, bah, j'ai fini par rejoindre Reconquête en janvier 2022.
Voilà pour les présentations, pour que les auditeurs et surtout les électeurs puissent bien vous identifier et pour... Les sujets à développer dans les prochaines semaines, puisque la mandature qui arrive hein, va durer 5 ans, il y a, j'imagine, selon vous, des sujets prioritaires. Alors, si je vous interpelle à brûle-pourpoint comme ça pour que vous annonciez aux auditeurs ce qui constitue pour vous l'urgence actuellement, que diriez-vous, Bernadette
Eh bien,
Coudrin?
d'abord, je suis partie avec Éric Zemmour pour cette aventure, car je trouvais que c'est le seul qui a osé faire les bons diagnostics. Et que donc, en conséquence, son programme est le plus réaliste pour redresser la France. J'y adhère à 100% et je suis fière de porter son message aux législatives pour vous et pour la troisième circonscription de la Sarthe. J'ai fait le triste constat sur cette circonscription de Saint-Calais à la Flèche, en passant par le Lude, des faillites, des fermetures de commerce, la désindustrialisation, les déserts médicaux, fermeture des classes et d'écoles à tour de bras, la fermeture de nos postes et de nos services publics, l'absence de transport qui fait de notre territoire un territoire enclavé. Et ça, c'est une raison vraiment importante de la désertification de ce territoire. Nos agriculteurs qui souffrent, l'environnement menacé avec prolifération d'éoliennes sans consultation des habitants, et l'insécurité aussi en augmentation, hein, vol de carburant dans les fermes, agression au cœur de nos petites villes. Et ceci est surtout à cause de 35 ans de gestion de la circonscription par le PS et par le centre droit, sans anticipation et sans courage politique. Donc, il est question en plusieurs points, de contribuer avec Reconquête, de faire basculer la troisième circonscription dans le camp du développement économique, du maintien des services publics, de la défense de nos agriculteurs, de la protection surtout de notre ruralité et de notre environnement, et de la préservation de notre identité, de notre culture et de nos traditions. Et avec Reconquête, je veux y contribuer.
Voilà pour les urgences que vous avez identifiées, j'imagine.
Ce sont les urgences.
Emmanuel Poirier, que vous voudriez compléter, vous avez une lecture similaire de la situation ?
Bah écoutez, alors je ne vous ai peut-être pas dit, mais bon, je travaille dans le privé, je suis cadre commercial et donc je suis un acteur du monde de l'entreprise. Donc je suis particulièrement sensible à la désindustrialisation. Et donc moi, ce que je souhaite pour la Serco et pour le Sud-Sahara, c'est de justement réindustrialiser petit à petit ce grand territoire. Moi, j'ai commencé une carrière professionnelle dans les années 80 avec un tissu industriel qui était assez conséquent. Et malheureusement, j'ai vu en un peu plus de 30 ans une perte d'industrie et donc d'emplois directs liés à l'industrie. Donc effectivement, le programme d'Éric Zemmour est pour cela très porteur, puisque son souhait, c'est de baisser le taux d'impôt sur les sociétés à 15% pour les petites entreprises, les artisans, les commerçants et les agriculteurs, créer des zones franches industrielles dans les régions durement touchées par la désindustrialisation comme la nôtre, exonérer du droit de donation et de succession la transmission d'entreprises familiales, et mettre fin au dumping social provoqué par l'actuelle directive européenne sur les travailleurs détachés.
Voilà, quelles sont pour tous les deux les urgences auxquelles il va falloir répondre dès les premiers jours de la nouvelle mandature. Et à proprement parler, à se focaliser sur la troisième circonscription, j'aimerais avoir aussi le regard que vous portez sur ce territoire-là, on en parlait hors antenne, puisqu'elle a une spécificité, c'est... la seule des circonscriptions du département, il y en a 5 en tout, qui n'a pas le Mans comme composante de son territoire. Et qu'est-ce que vous en pensez globalement de cette troisième circonscription de la Sarthe, Emmanuel Poirier ?
Alors, en ce qui me concerne, je pense que bon, ça peut être c'est pour moi, c'est une chance que ce monde spécifiquement rural. J'estime qu'il y a une certaine homogénéité sociologique et ethnologique sur tout ce territoire, avec les mêmes problématiques. Nous sommes vraiment ancrés dans le terroir, avec des problèmes effectivement de déplacement et de communication. Mais notre chance, c'est justement, on n'a pas les problèmes des villes. Et ça, c'est une richesse que beaucoup de familles qui souhaitent le calme, qui souhaitent pour leurs enfants une éducation plus, disons, dans un paysage, dans un environnement plus apaisé, ça, c'est une vraie chance pour notre territoire.
Un territoire...
Tout à fait. Emmanuel Poirier a bien dit. En revanche, notre misère, notre malheur, c'est quand même le désert médical qui est absolument scandaleux et que subissent les habitants de la troisième circonscription. Vous rendez-vous compte que nous perdons de l'espérance de vie, nous avons moins 2 ans d'espérance de vie par rapport aux populations urbaines, par rapport aux patients des régions urbaines. Et donc moi je suis engagée avec l'association ACCDM, c'est l'association des citoyens contre les déserts médicaux, et avec tous les Sartois, nous devons y adhérer activement et défendre notre droit à la santé. C'est absolument urgent. Et la deuxième urgence, c'est la lutte contre la fermeture des écoles rurales. Donc, on voit que j'étais infirmière et j'étais professeure des écoles. Alors, ce sont des sujets, évidemment, auxquels je suis très sensible. La fermeture des écoles, non, mais il ne faut pas laisser fermer une école ni une classe sur la circonscription 3. Et il faut être partout sur le terrain, là où elles sont menacées. Et je le serai. Et le troisième gros problème, c'est le désert d'emploi. Il faut aider au développement des transports publics pour les habitants de la troisième, parce que maintien des lignes TER, création de lignes régulières de bus, pour permettre l'implantation de TPE et de PME. Parce que si vous n'avez pas de transport, Mais les entreprises ne peuvent pas s'installer. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de famille qui s'installe. S'il n'y a pas de famille qui s'installe, les écoles ferment, les hôpitaux aussi. Et voilà, tout, c'est un cercle vicieux. Et c'est le cercle vicieux de l'enclavement du territoire. Donc, pas de transport, pas d'entreprise. Et pas d'entreprise, pas de famille, pas de famille, pas d'école. Tout s'ensuit. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est des primes à l'installation pour les entreprises en zone rurale, comme Emmanuel l'expliquait tout à l'heure, pour redynamiser notre territoire rural, afin d'inverser la courbe démographique, ce qui, par conséquent, fera cesser ce cycle infernal, ce cycle vicieux. Fermeture de classes, fermeture d'écoles, des hôpitaux, des urgences, des services publics, ce qui entraîne la destruction de notre territoire, tout bonnement. Donc, j'ai un autre point très important dans ce que j'envisage.
C'est lequel ?
C'est la participation citoyenne à la vie politique, c'est-à-dire communiquer constamment.
Oui, si vous permettez, on va en parler.
On va en parler après.
Après.
Oui.
Et j'aimerais qu'on revienne sur le problème de désertification médicale et surtout les problèmes rencontrés au niveau de la santé, puisque vous le savez, en étant à Saint-Calais, que l'hôpital de Saint-Calais a des problèmes depuis quelques années. Au Bailleul, le problème est aussi là, puisqu'il y a eu
à Montval-sur-Loire
aussi. Grande mobilisation, également au Lude. Alors, est-ce que ça veut dire que les établissements de santé de cette circonscription, la troisième, vont être logés à cette enseigne-là, Bernadette Coudrin, Emmanuel Poirier? Vous parliez d'attractivité, Bernadette Coudrin. Est-ce que le premier réflexe, si on veut s'installer dans un territoire, c'est de voir si on aura la possibilité de se soigner?
C'est... Bien sûr.
Alors, le préambule à tout ça,
c'est la réintégration des 15 000 soignants qui ont été éjectés du service hospitalier. Pour non-vaccination, bon, c'est un véritable scandale. Moi, en tant que... Alors, je suis adhérent d'une association anti-pass, Liberté 49, et avec Éric Zemmour, avec Reconquête, c'est une... ça sera un préambule avant toute action. Ensuite, on peut développer sur... faire sauter le numerus clausus, bien entendu, demander aux jeunes médecins de s'implanter prioritairement dans les zones sous-dotées, en les incitant fermement, par
une obligation,
par la contrainte, oui, bien entendu. Y a des professions qui, par contrainte, sont obligées d'exercer un certain nombre d'années dans certains territoires. On peut faire tout à fait la même chose avec les médecins. Aujourd'hui, c'est pas normal de se retrouver avec des délais d'attente énormes pour aller voir un médecin. Je vous pose la question, Jocelyn, vous avez une rage de dents, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre dentiste, il va vous donner un rendez-vous dans 6 mois, mais votre rage de dents, c'est de suite qu'il faut la régler. À moins de bien connaître votre dentiste, je vous conseillerais d'aller prendre votre voiture et d'aller sur la côte, au Pornic, au Croisic, et là vous aurez un rendez-vous... Alors, chez votre cher dentiste, que vous ne connaissez pas, mais vous aurez un rendez-vous dans la demi-heure. Est-ce bien normal?
Donc il faut rééquilibrer...
Il faut rééquilibrer, tout à fait, vers les zones rurales, les zones sous-dotées, les jeunes médecins, les médecins qui sortent donc des écoles.
Vous avez quelque chose à ajouter, Bernadette Coudrin?
Oui, qu'il faut que les médecins aient obligatoirement un stage de peut-être dernière année en médecine en zone rurale sous-dotée. En retour au service rendu pour les études de médecine dont ils ont bénéficié, oui, bien sûr, il faut que ce soit une contrainte, car il existe bien cette contrainte pour les pharmaciens, pour les notaires, pour les huissiers, pour plusieurs professions. Moi-même, quand j'étais professeur des écoles, j'ai signé pour 10 ans à l'éducation nationale, ensuite on est muté, on ne choisit pas là où on veut aller. Alors bien sûr, les médecins, je comprends bien qu'ils veulent aller là où il y a la mer, la montagne ou le soleil, mais le résultat pour la Sarthe et pour la troisième circonscription, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métropole proche, on est en zone rurale, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, donc il n'y a pas de médecins. Donc, à cotisation égale, pourtant, il y a un droit égal pour tous, quel que soit à la santé, quelle que soit la région d'habitation, c'est dans la Constitution. Donc, les patients qui cotisent et qui payent des impôts en zone rurale ne bénéficient pas des soins et des actes de prévention auxquels, pourtant, ils ont droit. Donc, nous voulons qu'il y ait, il faut quand même attirer les médecins, donc une différence de tarification pour les médecins ruraux, une augmentation des médecins, bien sûr, dans les hôpitaux. Stop numerus clausus, ça, bon, ils disent qu'ils l'ont fait, mais en fait, ils ont créé un autre barré, mais en fin de compte, il faut vraiment supprimer le numerus clausus et former deux fois plus de médecins, mais ça, c'est à long terme. Et il faut aménager le territoire. Les ARS ne jouent pas leur rôle du tout d'accompagnement. C'est une structure complètement technocratique. Et supprimer la tarification à l'acte dans les hôpitaux, qui font que les hôpitaux sont axés sur la rentabilité et non pas sur les besoins de santé des gens. Et mettre en place une astreinte peut-être pour les médecins aussi, comme il en existe pour les pharmaciens et pour certaines professions. Et je tiens aussi à ce qu'il faudrait aussi redonner aux soignants un pouvoir de décision dans les conseils d'administration des hôpitaux, hein, parce que vous savez, à l'heure actuelle, dans un hôpital, un médecin, eh bien, il faut qu'il remplisse 6 formulaires et qu'il ait affaire à 6 interlocuteurs à peu près pour acheter une chaise. Alors, il y a quand même tout ça à changer. Et puis, moi, ce que je verrais bien, c'est la création d'une école de médecine au Mans. Enfin, bref, il faut faire voter des lois pour la régulation et le maillage territorial des médecins sur le territoire français et faire cesser cette inégalité criante du manque de médecins dans nos zones rurales.
Sur Radio Prévert, nous sommes toujours avec Bernadette Coudrin, candidate aux élections législatives dans la 3e circonscription de la Sarthe sous la bannière Reconquête. Elle est accompagnée par Emmanuel Poirier, son suppléant. Avec eux, nous égrenons les sujets prioritaires, les urgences, donc tant pour la 3e circonscription de la Sarthe que pour la France. Et en matière d'urgence, en parlant de sujets d'actualité, vous le savez qu'il y a l'inflation qui mobilise toute l'attention, et vous évoquiez la mobilité, hein, et vous avez corrélé la mobilité à l'attractivité, vous évoquiez également la désindustrialisation, et en parlant de l'inflation et en prenant pour angle la mobilité, vu que l'essence, les prix de l'essence ont encore augmenté, l'essence maintenant est à plus de 2 euros.
Bientôt 3.
Vous croyez ?
Bien sûr. Il faut s'y attendre.
Et qu'en milieu rural, on n'a pas le choix. Il faut avoir deux véhicules.
Mais on va vers des jours très sombres, Jocelyn, il faut le savoir.
Et comment donner des perspectives aux électeurs, vous députés, vous suppléants ? Quelles sont les pistes de solutions que vous pourriez esquisser ? Si les électeurs vous font confiance.
Il faudrait avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour tordre le bras d'Emmanuel Macron. Mais oui, ça va être compliqué, mais on va vers des jours difficiles, ouais. C'est certain. On risque de ne pas se chauffer l'hiver prochain.
Absolument.
On risque de ne plus pouvoir mettre de litres de gasoil ou d'essence dans nos réservoirs d'essence. Non, c'est grave.
Ça, c'est pour le constat. Alors, quelles sont les pistes de solutions que vous voudriez qu'on mette en application, Emmanuel Poirier ?
Alors, sur le prix de l'essence, bien entendu, il faut baisser les taxes, hein, mais le plus possible pour... Parce qu'aujourd'hui, c'est 70%, 80% du prix du litre part en taxes. Donc, à un moment donné, il faut peut-être limiter ce pourcentage à une valeur absolue pour éviter d'atteindre des sommets. Comme on l'a fait par le passé, hein, d'ailleurs. C'est pas très compliqué. Ensuite, on fera avec. Hein.
Et à part le carburant, il y a également l'alimentation. On évoquait les cours du blé. Évidemment, la France dispose de blé, mais bon,
oui, on n'est pas sur l'île. Il y aura des mesures qui devront être prises sur les produits de première nécessité. Hein. C'est certain que sur les produits... Voilà, sur des produits de première nécessité, il faudra faire des efforts, passer sans doute temporairement la TVA de 20 à 5% sur certains produits. Mais ouais, non, ça va être compliqué, hein, c'est certain.
Bernadette Coudrin.
Les seules mesures que Macron nous propose, c'est de continuer à faire les sanctions sur la Russie. Moi, je comprends bien, dans une guerre, il n'y a pas forcément des bons et des méchants. Il y a des négociations à faire, il y a essayer de comprendre tout le monde. Et en fait, avec cette histoire de gaz russe, on se tire un peu une balle dans le pied, et même dans la tête, parce que quand les gens pourront plus se chauffer, en plus, on a détruit un peu notre EDF, et on a bazardé Alstom et nos centrales nucléaires. Donc, je ne sais pas si c'est avec les éoliennes que les gens vont se chauffer et qu'ils vont avoir du... Ils iront sous les éoliennes peut-être chercher du carburant pour leur voiture. Donc tout ça, c'est un problème au niveau européen, c'est pas un problème qui peut se régler au niveau d'une circonscription. C'est un problème de la relation à l'Europe et de la souveraineté, c'est-à-dire, et des relations internationales. Hein. On est un petit peu les petits télégraphistes des Américains. Et nous manquons de souveraineté, nos nations manquent de souveraineté.
Emmanuel Poirier.
Ouais, alors moi j'ai un constat plus positif, plus négatif encore. Emmanuel Macron nous emmène à la guerre, il faut le savoir. Il faut juste lire la tribune de François de Closet qui est parue dans le Figaro dernièrement. On met tous les outils pour un conflit direct avec la Russie. Mais on rentre dans un moment très compliqué, très difficile. Et il faut que les Français, les Sartois, mais les Français en général, vraiment se rendent compte que... Nous avons quelqu'un à tête de l'État qui se comporte comme un autocrate, avec tout, et très très loin de la démocratie et très loin de la paix publique.
Vous pensez qu'on est en régime autocratique en France ?
Quasiment, oui, tout à fait.
Quasiment, c'est pas...
Bien sûr.
Pourquoi dites-vous ça ?
Il suffit de bien analyser... ses prises de position et puis la surface médiatique qui le porte avantageusement.
Vous vous exprimez sur une radio actuellement.
Je m'exprime là, oui, mais à mon niveau, je ne passe pas grand-chose.
Nous, pour en connaître. Nous comptons aussi dans le paysage audiovisuel, modestement, oui. À notre niveau. Alors, y a un sujet sur lequel j'aimerais vous entendre en tant que porteur de projet, opérateur économique, puisque vous le savez, la troisième circonscription de la Sarthe. Il y a peut-être d'autres territoires aussi qui ont ce problème en matière d'emploi. Vous évoquiez la désindustrialisation. Quels sont les leviers qu'on pourrait actionner, vous qui avez l'expertise du chef d'entreprise
Non, je ne suis pas chef d'entreprise, j'étais cadre commercial, c'est suffisant. Il faut créer un écosystème favorable.
C'est-à-dire
Des zones franches dans certains secteurs, permettre aux entreprises, comme j'expliquais tout à l'heure, aux chefs d'entreprise de transmettre leur entreprise à leurs enfants, de baisser l'IS, l'impôt sur les sociétés, aux petites entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs.
De l'ordre de 15%, avez-vous dit ?
Oui, à 15%. Donc, ça fait, donc donner un avantage aux petites entreprises et non donner avantage aux multinationales qui, elles, savent très bien de l'optimisation fiscale et donc finalement peut contribuer aux efforts sociaux du pays. Et ensuite, effectivement, apporter des moyens aux familles pour le transport, favoriser éventuellement le retour des voies chemin de fer, donc voies de dépassement douce, et puis travailler localement.
Faire venir des entreprises sur le territoire
Les entreprises, mais naturellement, il faut qu'elles reviennent naturellement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'écosystème soit favorable. Et l'écosystème est en partie favorable, mis à part le transport qui est un problème. Et je disais, les gens dans le sud de Sarthe sont, à part les problèmes de pouvoir d'achat, n'ont globalement pas trop de problèmes de sécurité. C'est une chance et ça peut être notre avenir aussi, cette chance. Il faut la saisir.
Bernadette Coudin.
Si vous prenez par exemple l'exemple de la société Arjo Wiggins à Bessay-sur-Braye qui a fermé et par l'action de prédateurs financiers en quelque sorte, car elle pouvait être sauvée, cette entreprise, elle pouvait tout à fait être sauvée. Ça n'a pas pu se faire parce que ce sont des textes de l'Europe, de Bruxelles, qui ont empêché qu'on aide un peu plus cette entreprise à rester ouverte, à garder cette papeterie historique. Parce que, bon, par exemple, on a donné, mettons, l'État donne 10 millions et la région donne 5 millions pour sauver l'entreprise, mais ça ne suffit pas. Et l'Europe nous empêche de donner plus, quoi. On n'a pas le droit, la France n'a pas eu le droit, il n'avait pas le droit de donner plus de 50%, donc en fait, on n'a pas eu le droit, en fait, de sauver cette entreprise qui manque cruellement. Maintenant, puisque en fin de compte, regardez comment ça a augmenté le papier, et en fin de compte, on a besoin de cette papeterie, on a besoin de papier, où on va aller l'acheter où le papier maintenant. Et bon, j'ai discuté avec plusieurs anciens de Arjo Wiggins, puisque c'est tout près de chez moi, et ils me disaient qu'il n'y avait aucun problème de carnet de commandes, que cette entreprise pouvait très bien fonctionner, qu'il n'y avait pas tant que ça de problèmes, qu'elle pouvait être sauvée. Alors après, ils ont refuser des repreneurs. Et puis bon, maintenant, l'entreprise, elle est reprise effectivement pour fabriquer des gants en nitrile. Donc oui, bon, il va recevoir des subventions. L'entreprise va recevoir 10 millions, 5 millions. Bon, et puis dans 3 ans, quand il faudra payer des charges, rien ne nous dit qu'ils ne vont pas mettre la clé sous la porte et recommencer et mettre les ouvriers dehors. Parce qu'en fait, compte, c'est bien de donner des subventions à une entreprise, mais il faut qu'il y ait des contraintes, il faut surveiller, il faudrait qu'il y ait une contrepartie, c'est-à-dire que non, vous prenez les subventions, puis dans 3 ans, vous mettez la clé sous la porte, vous mettez tout le monde dehors, et puis vous partez ouvrir autre chose ailleurs, vous voyez, c'est ça qui ne devrait pas pouvoir se faire. Ouais. Donc c'est très important de réindustrialiser le pays, et les entreprises, oui, il faut aller les chercher. Et il faut leur offrir effectivement des conditions pour qu'ils puissent s'installer, mais il faut aussi s'assurer qu'ils vont rester.
On va bientôt terminer cet entretien sur les élections législatives avec Bernadette Coudrin, candidate Reconquête pour la 13e circonscription de la Sarthe, qui est avec nous dans le studio de La Flèche avec Emmanuel Poirier, son suppléant. Mais j'aimerais que vous reveniez, Madame, Monsieur, sur l'accès aux services publics, puisque c'est aussi un élément déterminant. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, vous l'avez survolé, Bernadette Coudrin, puisque vous disiez qu'on payait quasiment les mêmes impôts où que l'on soit sur le territoire, mais
on n'a pas les mêmes services.
Et de durée de vie.
D'abord, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une participation citoyenne à la vie politique de toute la population. Parce que tout ça doit se faire avec la population, en communiquant constamment les actions de votre député, par votre député, la consultation régulière de la population, dans des réunions publiques, chaque mois. Dans tous les cantons, chaque mois un canton, vous serez invité, si vous m'en donnez le mandat, à vous exprimer sur vos doléances. Et moi, j'irai chez vous, sur le terrain, dans des salles publiques ou dans des salles communales, pour vous écouter, pour identifier avec vous les problèmes que vous rencontrez et que je porterai devant l'Assemblée nationale. Ce sera votre message, vos doléances, vos droits, et c'est mon devoir. Ce n'est pas j'ai un bureau au Mans et puis il faut téléphoner, prendre rendez-vous avec le député pour parler de ça, de la place qu'on veut en HLM ou dans un EHPAD pour sa maman. Non, c'est toute la population qui doit se réunir devant sa députée et on doit parler, identifier les problématiques du territoire et la députée porte à l'Assemblée nationale ce message et ses doléances, et ensuite elle revient porter le message à la population. Elle ne dit pas, ben, tiens, c'est sur Internet, sur le site de l'Assemblée nationale, vous pouvez voir ce que la députée elle a voté. Non, non, non. Vous venez devant la population, vous venez dire ce que vous avez voté, je viendrai dire, ça je l'ai voté, là il y a cette problématique-là, on en est là, ça c'est pas voté, là on m'a mis des bâtons dans les roues, on discute, on argumente, et les gens décident, tous ensemble, c'est-à-dire qu'on fait la politique pas seulement pour le peuple, par le peuple, mais avec le peuple.
Emmanuel Poirier, quelque chose à ajouter ?
Il faut moins de fonctionnaires, et puis juste l'ARS.
Agence régionale de santé.
L'agence régionale de santé, figurez-vous que au moment de la crise du Covid, en début de la pandémie, où c'était panique générale, l'ARS ne donnait plus son mot à dire. On laissait les médecins dans les hôpitaux à traiter finalement leurs malades comme ils voulaient et comme ils pouvaient surtout. Et durant ces quelques mois, ça s'est finalement assez bien passé. Bon, la crise Covid.
Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Nous, on faisait chaque jeudi.
Oui, non, mais en termes de fonctionnement.
Conférences de presse avec l'ARS.
L'ARS disait très bien que ça allait pas. Mais les médecins, ils travaillaient comme ils voulaient travailler. On leur laissait complètement main libre. Aujourd'hui, maintenant que l'ARS a repris le dessus, ils passent beaucoup de temps dans tout ce qui est procédure, paperasse. Et donc, au lieu d'être proches de leurs patients, ils sont sortis de leur fonction initiale.
Et pendant ce temps-là, il y a 70 000 Sartois qui n'ont pas de médecin traitant.
Plus de médecins à soigner leurs patients plutôt que de s'occuper de la paperasserie, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement.
Oui.
Alors, on va terminer, madame, monsieur, cet entretien qui porte sur l'élection qui arrive dans quelques jours. Hein. Le premier tour, c'est déjà le 12. Dimanche 12 juin,
oui.
Et vous le savez, hein, la mobilisation pour ce scrutin n'équivaut pas à celle que nous avons pour l'élection présidentielle. Alors, quel message voulez-vous porter aux électeurs pour qu'ils saisissent le moment qui arrive pour s'exprimer ?
Mon objectif, si vous m'en donnez le mandat, c'est qu'en 5 ans, la troisième circonscription soit dans la moyenne nationale et au-dessus de la moyenne des Pays de Loire pour les indicateurs clés de qualité de vie. C'est ce qui importe aux électeurs de la troisième circonscription. C'est ce qui se passe ici dans nos zones rurales. L'inégalité criante entre les zones rurales et les régions urbaines, tant au niveau de la santé, de la fermeture des écoles, de la fermeture des services publics, du désert d'emploi et du désert de transport qui sont absolument dramatiques en Sarthe.
Emmanuel Poirier, suppléant de Bernadette Coudrin.
Oui, alors l'abstention peut être un problème, mais ça peut être aussi une chance.
En quoi ?
Je joue cash. Hein. Alors moi, je raisonne un peu comme un cadre commercial. Nous avons une cible politique qui sont les électeurs classés à droite.
Ils sont plus motivés ?
Ils sont plus. Or, chez Zemmour, on est excessivement motivés. Premier parti de France, 650 rien qu'en Sarthe, plus de 1500 sympathisants en Sarthe, c'est énorme. Et nous, clairement, on vise cet électorat qui ne va pas s'abstenir. Nous visons également l'électorat RN qui est quand même déçu par l'appel du vote utile. Par le non-souhait de Marine Le Pen pour l'Union des droites, qui ont au premier tour de la présidentielle, puis au second voté Marine Le Pen pour vote utile. Et puis il y a également tout cet électorat d'hiver droite LR qui est actuellement perdu avec un ministre, avec le maire d'Angers qui est devenu ministre du Macron, chez Macron. On a un député anciennement LR qui veut se faire réélire, alors cette fois-ci c'est sur l'étiquette LREM. C'est quand même de grands cirques. Et sur la CIRCO, nous avons quand même deux candidats siamois, dus en même temps, Béatrice Martineau et Éric Latouche, réclamant de la... pardon, oui, en réclamant de la souveraineté, réclamant de la souveraineté alimentaire, mais fervent défenseur d'une Europe fédérale, c'est les deux mêmes. Ils sont contre les éoliennes dans nos bois. Je fais partie d'une association bien connue à la pêche qui s'appelle Le Son dans la Garenne des Arts. Mais en même temps, ils sont pour les éoliennes ailleurs en mer. Nous sommes pour la beauté de nos paysages. La beauté de nos paysages n'a pas de prix.
Moi, je dis que je suis pour les éoliennes, mais sur les bords de la Seine.
C'est parfait.
On a bien entendu votre message et on vous remercie tous les deux d'être venus.
Merci, Jocelyn.
Je vous en prie. On peut rajouter que les auditeurs
de Radio Prévert,
et nos électeurs doivent comprendre qu'en allant voter, vous avez quand même la possibilité d'influencer les décisions et les investissements qui impactent votre vie quotidienne. Et non, il n'est pas trop tard. Et si je suis élue, vous pourrez compter sur moi, car au-delà des compétences d'un député, le rôle des élus, c'est de représenter réellement et activement leurs électeurs. C'est ce que je compte bien faire.
Dixit Bernadette Coudrin, candidate Reconquête, qui est venue dans ce studio de La Flèche de Radio Prévert avec Emmanuel Poirier. Merci à tous les deux.
Merci. Au revoir, Jocelyn.
Au revoir et bonne chance pour ce scrutin.
Merci aux auditeurs de Radio Prévert.